Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié dans le cycle de Invisible, ce court roman de Eric Emmanuel Schmitt situe son action dans la Belgique occupée de 1942. Joseph Bernstein, enfant juif séparé de ses parents sous la menace des rafles, reçoit une fausse identité et trouve refuge à la Villa Jaune, un internat catholique dirigé par le père Ponce. Le livre relève à la fois du récit historique, du roman de formation et de la fable humaniste. La guerre impose au jeune narrateur la clandestinité, le mensonge protecteur et la peur de la déportation, mais le centre du texte demeure sa relation avec le prêtre qui le protège. Par les conversations entre Joseph et le père Ponce, Schmitt met en regard judaïsme et christianisme sans chercher à établir une supériorité religieuse. Le roman examine plutôt les conditions concrètes du respect entre croyances, la transmission menacée de la mémoire juive et la responsabilité individuelle face à la persécution. Sa langue volontairement accessible rend ses enjeux abordables depuis le regard inquiet, parfois ironique, parfois naïf, de Joseph. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la clandestinité transforme identité et enfance sous occupation. Le parcours de Joseph montre que la persécution nazie atteint un enfant avant même toute compréhension politique du conflit. Pour survivre, il doit quitter ses parents, abandonner son nom et apprendre un rôle social nouveau. Sa fausse identité catholique ne constitue pas un simple détail administratif, elle organise ses gestes, ses paroles, ses relations avec les autres élèves et son rapport à lui-même. Le danger vient autant de la présence allemande que de la possibilité permanente de la dénonciation. Schmitt évite de faire de Joseph un témoin omniscient de la Shoah. Le lecteur perçoit au contraire la violence historique à travers des réalités enfantines très concrètes, être déplacé, ne pas savoir si les parents reviendront, devoir obéir à des règles dont le sens échappe, ou ressentir une jalousie envers ceux qui semblent protégés par leur appartenance religieuse. Ce point de vue limite la description directe de la déportation, mais donne une place centrale à la désorientation. La guerre devient une expérience de dépossession, elle retire à Joseph son foyer, son identité publique et la continuité normale de son enfance. Le roman rappelle ainsi que sauver un enfant ne consiste pas seulement à préserver son corps, mais aussi à préserver la possibilité pour lui de retrouver une histoire et une appartenance après la catastrophe. Deuxièmement, le père Ponce incarne une protection active plutôt qu'une charité abstraite. Le père Ponce se distingue parce que sa foi se mesure à des actes risqués. Directeur de la Villa Jaune, il dissimule des enfants juifs parmi les pensionnaires catholiques et organise leur protection malgré les menaces qui pèsent sur lui et sur son institution. Cette position rend le personnage plus complexe que la figure conventionnelle du prêtre bienveillant. Il ne demande pas aux enfants de renoncer intérieurement à leur origine pour mériter son aide. Au contraire, son action repose sur la conviction que leur survie doit inclure la continuité de leur mémoire, de leurs textes et de leurs traditions. Sa relation avec Joseph ne supprime pas les différences entre catholicisme et judaïsme. Elle les rend discutables et vivantes. Le roman place donc la morale dans la responsabilité individuelle, non dans une identité religieuse proclamée. Pendant que des chrétiens participent à la persécution ou la tolèrent, un prêtre choisit de résister concrètement. Cette opposition empêche de confondre religion, institution et comportement éthique. Le père Ponce représente aussi la figure des personnes qui ont caché des enfants durant la guerre, sans réduire leurs gestes à une héroïsation facile. Sa discrétion, ses stratégies et son acceptation du danger montrent que la solidarité exige une organisation pratique autant qu'une conviction humaniste. Troisièmement, le dialogue entre judaïsme et christianisme privilégie le respect des différences. Le roman appartient à une série où Eric Emmanuel Schmitt aborde les religions depuis des personnages jeunes. Ici, les échanges entre Joseph et le père Ponce font découvrir des différences précises entre judaïsme et christianisme, la place de Jésus, l'attente du Messie, les pratiques religieuses et les textes sacrés. Toutefois, le livre ne traite pas ces éléments comme un débat destiné à désigner une croyance gagnante. Joseph voudrait parfois appartenir à la religion qui semble le mettre à l'abri, tandis que le père Ponce cherche à comprendre et à conserver ce qui est menacé dans le judaïsme. Le dialogue sert donc à distinguer l'identité spirituelle de la sécurité sociale ou politique. Schmitt met particulièrement en valeur une idée de respect qui ne suppose ni fusion ni effacement des traditions. Les deux personnages peuvent se questionner, se contredire et éprouver de la curiosité sans que la différence devienne une raison de haine. Cette démarche prend une force particulière dans le contexte de la Shoah, où une idéologie raciale transforme une appartenance en motif de destruction. Le roman refuse ainsi toute lecture qui ferait de la religion une essence hostile. Il souligne que les conflits naissent aussi de préjugés, de rapports de pouvoir et de décisions humaines. La foi peut devenir un espace de dialogue lorsqu'elle demeure liée à la dignité de chaque personne. Quatrièmement, la crypte et les objets sauvés font de la mémoire un acte de résistance. La collection secrète du père Ponce constitue un symbole majeur du livre. Dans une crypte, il rassemble des objets, des livres et des traces liées au judaïsme. Car il redoute que la persécution n'efface non seulement des vies, mais aussi une culture. Ce geste peut d'abord troubler Joseph, conserver les vestiges de son peuple, semble presque admettre sa disparition. Pourtant, le roman développe une tension essentielle entre sauvegarder une mémoire et enfermer une communauté dans le passé. Le père Ponce ne collectionne pas pour posséder des reliques. Il cherche à transmettre ce que les persécuteurs veulent détruire. La présence vivante de Joseph corrige donc le risque muséal. La tradition juive ne se réduit jamais aux objets de la crypte puisque le garçon porte une expérience, des questions et une capacité de continuer. Cette dimension donne au titre une portée symbolique. Comme Noé préserve des formes de vie menacées par le déluge, le prêtre tente de sauver des éléments d'un monde que la violence veut anéantir. Mais le roman rappelle que la mémoire ne peut être confiée au seul sauveteur extérieur. Elle dépend aussi des survivants, de leur retour à une identité assumée et de la transmission entre générations. La conservation matérielle devient alors une forme limitée mais nécessaire de résistance culturelle. En dernier lieu, la libération ne résout pas immédiatement les ruptures créées par la guerre. Une originalité du roman réside dans son attention aux difficultés qui suivent la fin de l'occupation. La libération apporte la possibilité de sortir de la clandestinité, mais elle ne restitue pas automatiquement une vie ordinaire. Joseph doit réapprendre une relation familiale après la séparation, quitter l'identité chrétienne qu'il a dû jouer et retrouver une place dans son héritage juif. Cette période montre que la survie ne se termine pas avec la disparition du danger immédiat. Les habitudes acquises à la Villa Jaune, les liens d'affection avec le père Ponce et les incertitudes concernant les proches rendent le retour complexe. Schmitt donne ainsi une place à une conséquence souvent moins visible des récits de guerre. La paix oblige les rescapés à recomposer une continuité personnelle après avoir vécu sous une identité de substitution. Le livre ne transforme pas cette reconstruction en guérison simple. Il suggère que les expériences de peur, de dissimulation et de séparation continuent de modeler les choix ultérieurs. La mémoire de Joseph déborde également le cadre de 1942 en ouvrant une réflexion sur les conflits et les appartenances du présent. Sans assimiler des situations historiques différentes, le roman invite à considérer que la protection de la dignité humaine exige un effort durable, y compris après la fin officielle de la violence. En conclusion, le roman convient particulièrement aux lecteurs qui cherchent une première approche littéraire de la persécution des Juifs en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'aux adolescents et aux adultes intéressés par le dialogue interreligieux. Sa brièveté et sa narration claire le rendent accessible dans un cadre scolaire. Mais ces questions sur le nom, la mémoire, la foi et la survie dépassent largement une lecture pédagogique. Il peut aider à comprendre que la Shoah ne fut pas seulement une succession de faits historiques, elle a imposé à des enfants des séparations, des identités fictives et des retours difficiles à la vie familiale. Il offre aussi un point de départ utile pour discuter du rôle des sauveteurs, de la transmission culturelle et des limites entre tolérance passive et solidarité active. Par comparaison avec des romans plus documentaires ou plus vastes consacrés à la guerre, le roman de Schmitt se distingue par son resserrement. Il ne cherche pas à représenter toute la machine génocidaire ni à multiplier les points de vue. Il concentre son effet sur une relation entre un enfant juif et un prêtre catholique, afin d'examiner comment une foi peut servir la protection de autrui plutôt que exclusion. Cette simplicité constitue sa force, même si certains lecteurs pourront souhaiter davantage de profondeur historique ou psychologique. Le livre se démarque surtout par le lien qu'il établit entre sauvetage des personnes et sauvegarde des traditions. Il propose une lecture humaniste où la mémoire demeure vivante seulement si elle nourrit le respect concret des différences. Si vous souhaitez soutenir Eric Emmanuel Schmitt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.